Laudetur Jesus Christus.
La France sera-t-elle le 8e pays européen à légaliser l'aide à mourir ? L'Église appelle à rejeter le texte allant en ce sens et soumis ce soir à un premier vote des députés. Comment se faire entendre ? C'est ce que nous verrons. Le président français est arrivé en Indonésie après le Vietnam où il a renvoyé dos à dos la Chine et les États-Unis, deux superpuissances désinhibées, dit-il, qui mettent en péril la région. Il fut pendant 18 ans à la tête de la RDC, pays où il a fait son grand retour. L'ancien président Kabila a choisi Goma dans l'Est pour revenir. Un choix à la lourde portée symbolique. Et puis enfin en Guinée, le gouvernement, la junte, poursuit ses retraits de permis d'exploitation et de recherche minière à des dizaines de sociétés. Nous verrons pourquoi à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. En France, après 15 jours de débat à l'Assemblée, les députés sont appelés à se prononcer solennellement ce mardi sur le développement des soins palliatifs, mais aussi sur la création d'une aide à mourir. Aux côtés des évêques, les représentants orthodoxes, musulmans, juifs, protestants ou bouddhistes appellent à rejeter cette deuxième proposition de loi qui entraînerait, selon eux, une rupture anthropologique. Rejetée par les responsables des cultes, le texte divise la classe politique, mais selon une enquête IFOP, l'an dernier, 92% des Français s'étaient déclarés favorables à l'euthanasie lorsque le patient atteint d'une maladie insupportable et incurable en formule la demande. Comment, dans ce contexte, l'Église peut-elle être entendue et comment peut-elle faire porter sa voix, même en cas d'adoption du texte ? C'est ce que nous voyons avec Mgr Éric de Beuclair, le vicaire du diocèse de Liège en Belgique, pays où, vous le savez, le suicide assisté et l'euthanasie sont autorisés.
Il y a un double travail. D'abord, de rassurer, parce que parfois, on présente, parce qu'on est mal informé, l'alternative entre « on va vous laisser souffrir bêtement » ou « vous faites appel à l'euthanasie ». Il faut expliquer qu'il ne s'agit pas du tout de cela et que nous avons d'excellents médecins chrétiens qui sont spécialistes dans tout ce qui concerne la douleur et qui expliquent qu'avec les soins palliatifs, la sédation palliative et d'autres, il existe bien d'autres chemins que l'euthanasie ou le suicide assisté. Et donc, ça, c'est la première chose, c'est rassurer les patients qui ont des questions bien légitimes par rapport à la peur que nous avons tous de souffrir. Et puis, la seconde chose, c'est de rappeler le sens que cela a d'être accompagné jusqu'au bout de notre chemin personnel. Et enfin, je dirais que nous essayons d'avoir une parole claire, mais en même temps, face à toute situation, de rester les témoins d'un Christ miséricordieux. Donc, face aux personnes qui, malgré tout, demandent l'euthanasie, nous ne les rejetons pas, nous continuons à les accompagner jusqu'au bout.
Le père de Beuclair interrogé par Xavier Sartre, un sujet sur lequel nous reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Au Vatican, l'actualité française en tout cas fait l'objet d'une attention particulière, notamment à l'Académie pontificale pour la vie, qui vient de se voir dotée d'un nouveau président. Le pape Léon XIV a nommé Mgr Pegoraro à ce poste. L'ancien chancelier de cette institution succède à Mgr Paglia, âgé aujourd'hui de plus de 80 ans. Près de 54 000 morts officiellement à Gaza, dont encore une cinquantaine hier dans le bombardement d'une école et de sites abritant des civils. Un acte odieux selon la présidente de la Commission européenne aux côtés aujourd'hui du roi de Jordanie. Et dans une tribune, quelques 300 écrivains dont deux prix Nobel de littérature dénoncent ce mardi un génocide en cours dans l'enclave palestinienne. Ils réclament un cessez-le-feu, ce qu'exige aussi le Saint-Siège par la voix de son secrétaire d'État. Le cardinal Parolin appelle de surcroît au respect du droit humanitaire, en appelle la communauté internationale pour qu'elle mette fin à cette tragédie vécue aussi par les captifs du hommage du Hamas, des otages dont le Vatican souhaite la libération. Ils parleront de Gaza, de stabilité régionale. Le président iranien est arrivé à Mascate ce mardi. Massoud Pezeshkian restera deux jours à Oman, pays médiateur entre les États-Unis et la République islamique sur la question du programme nucléaire iranien. Comment répondre à la hausse des droits de douane américains ? 10 pays du sud-est asiatique sont réunis en sommet à Kuala Lumpur en Malaisie. Les membres de l'ASEAN s'entretiendront avec le Premier ministre chinois et des États du Golfe. Et parmi eux, le Vietnam qui accueille le président français. Après la signature hier de 9 milliards d'euros de contrats commerciaux, Emmanuel Macron s'est adressé à la jeunesse du pays ce mardi, prenant face à l'instabilité du monde, à l'IA, au changement climatique, un partenariat respectueux, une troisième voie face aux grandes puissances que sont la Chine ou les États-Unis. C'est ce que nous explique Marianne Perrondoise. Elle est directrice de l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique.
Il y a effectivement le souci de relancer une vision diplomatique française qui est globale et qui n'est pas uniquement économique. Mais il y a aussi des messages globaux qui s'adressent à l'ensemble de l'Asie du Sud-Est et peut-être aussi à la communauté internationale concernant une vision des relations internationales, des relations entre États, que ce soit dans le domaine économique ou dans le domaine diplomatique ou stratégique. Il est basé sur la souveraineté et le respect des choix. Et là, effectivement, il y a certainement un message qui s'adresse tant au président des États-Unis qu'au leadership chinois. Et c'est ce qui est quand même très, très intéressant dans ce déplacement.
Des propos recueillis par Augustine Asta. Emmanuel Macron qui vient d'arriver en Indonésie. Deuxième étape de son déplacement, un pays densément peuplé qui souhaiterait renforcer son énergie nucléaire. Il y a ceux qui s'en prennent aux États-Unis. L'Italie de Giorgia Meloni s'en prend, elle, aux droits de douane internes à l'UE, faisant référence au coût des normes que Bruxelles impose. Un discours tenu aujourd'hui devant le syndicat du patronat italien. L'UE qui vient de faire un pas vers une défense commune. Un accord de principe a été adopté aujourd'hui visant à faciliter l'achat en commun d'armement. Un programme de 150 milliards d'euros de budget pour doter les 27 de missiles, de drones ou de systèmes de défense anti-aérienne. Direction l'Afrique, Joseph Kabila est de retour en République démocratique du Congo et c'est Goma, sous contrôle rebelle, qu'il a choisi pour faire ce retour. Un choix lourd en symbole, alors que le gouvernement et la justice sont déjà accusés de parrainer le M23. L'homme qui a dirigé le plus grand pays francophone au monde pendant 18 ans et aujourd'hui opposant laisse ainsi planer le doute sur ses réelles intentions pour l'avenir, 6 ans après avoir légué le pouvoir à Félix Tshisekedi. Les précisions de Pascal Molégois.
L'annonce de sa présence a été faite par les deux porte-parole du M23 qui l'ont salué avec des mots doux qualifiant l'ancien chef de l'État de soldat du peuple, un homme respecté et respectable. Aucun visuel de cette visite n'a toutefois été diffusé, alimentant encore davantage les spéculations sur les intentions de celui qui a dirigé le pays pendant 18 ans avant de céder le pouvoir à Félix Tshisekedi en 2019. Ce déplacement marquait-il la fin d'un exil de 2 ans pour Kabila? Rien n'est moins sûr. Que vient-il faire dans une zone rebelle? Réponse d'Emmanuel Ramazani Shadari, chef du PPRD, le parti de Kabila.
Il va pour discuter avec ceux qui ont pris les armes. Et il va donner sa contribution en discutant avec eux. Il connaît les jeux et les enjeux.
Ce retour intervient alors qu'il est désormais sous la menace de poursuites judiciaires. La justice militaire a déjà obtenu la levée de son immunité des sénateurs à vie. Il sera donc poursuivi pour ses présumés liens avec les rebelles du M23 AFC, des griefs qui pourraient lui valoir de lourdes peines, voire la peine capitale comme celle déjà prononcée à partir de Kinshasa contre plusieurs cadres de la rébellion présents dans l'Est. Dans l'attente de l'action judiciaire, les autorités poursuivent leurs investigations, notamment sur les réseaux d'affaires et les relais sécuritaires que Kabila entretiendrait encore à travers les pays. Pascal Molégua, Kinshasa, RFI pour Radio Vatican.
En Guinée, des dizaines de sociétés minières, je vous le disais en titre, se sont vues privées de leur permis de recherche, tandis que d'autres étaient désormais interdites d'exploitation de carrières par la junte. Les explications de Emmanuel Milimono.
Après la centaine de permis retirés la semaine dernière, plus d'une centaine d'autres sociétés ont été frappées ce lundi 26 mai. Dans un arrêté lu sur les ondes de la télévision nationale, pas moins de 129 sociétés opérant dans divers secteurs se sont vues dépossédées de leurs permis, reversés dans le portefeuille de l'État gratuitement, conformément au code minier, précise l'arrêté. Dans la journée de ce lundi, les autorités ont ordonné le gel des comptes bancaires des sociétés concernées par la première vague. Il en sera de même pour celle de ce lundi. Les spécialistes du secteur alertent cependant sur les risques d'une telle opération qui, selon eux, devrait obéir aux dispositions strictes du code minier. D'autres parlent des mesures qui pourraient décourager les investissements étrangers. Vendredi dernier, le porte-parole de la présidence et celui du gouvernement ont fait savoir que cette opération vise à assainir le secteur minier, éviter les spéculations. Le cas de la société Emirati GAC, filiale des Emirates Global Alumina, est devenu emblématique. Elle est en effet mise en demeure, ses activités suspendues et pourrait se voir dessaisie de son permis si elle ne possède pas la construction de sa raffinerie en Guinée. L'entreprise se défend cependant, mettant en avant son apport sur l'économie guinéenne, ses emplois créés, mais aussi une proposition qu'elle aurait déjà soumise dans le sens de la construction de sa raffinerie. Emmanuel Milimono Conakry pour Radio Vatican.
Et enfin, sur Internet, une chaîne de prières pour un prêtre blessé par balle et laissé pour mort sur le bord de la route de Markourdi Naka, dans le centre du Nigeria. Une victime collatérale de violences qui ont fait en tout 44 morts dans l'état de Benue, le théâtre d'un conflit récurrent entre des éleveurs peuls et des agriculteurs sédentaires. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.